Ici Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Bon week-end à tous et aussi bon début de semaine. Ravi d'être de nouveau en votre compagnie. Ma chère Liliane, bonjour à vous.
Bonjour Saint-Ish, bonjour à tous, bienvenue. Et nous allons commencer avec notre premier sujet. Pas d'engagement financier ferme au terme du sommet de Paris sur la relance des économies africaines tenu cette semaine dans la capitale française. Quelles ont été finalement les retombées de cette rencontre voulue par le président Macron et censée remettre en marche l'économie du continent ?
Une trentaine de dirigeants de pays et d'institutions financières internationales invités par le président français pour mettre en place un New Deal, selon les mots d'Emmanuel Macron. Les bases jetées et les conclusions de la rencontre de Paris sont-elles de nature à rassurer les populations africaines très méfiantes vis-à-vis des pays riches et des institutions financières ? Décryptage et commentaires à suivre, Liliane.
Pas de sanctions pour le Tchad après le rapport de la commission d'enquête de l'Union africaine. L'organisation continentale serait-elle conciliante avec le Conseil militaire de transition qui dirige le pays depuis la mort il y a un mois du président Déby.
La position de l'Union africaine qui résulte de la divergence, on va dire, des points de vue des États membres sur le Tchad. Une position pas très claire. Quel impact sur l'évolution de la situation avec dans le pays des contestations qui se poursuivent pour exiger un retour à l'ordre constitutionnel, Liliane.
En Guinée, 25 personnalités soupçonnées d'avoir joué un rôle dans le massacre du 28 septembre 2009 risquent-ils des sanctions de l'Union européenne ? Quel effet cette demande pourrait-elle avoir sur le pouvoir en place à Conakry ?
Ce sont 25 personnalités placées au cœur de l'appareil d'État et qui, je cite, font preuve de zèle pour supprimer l'opposition et violer les droits de l'homme. C'est ce que dénoncent 32 eurodéputés de divers groupes qui réclament des sanctions de la part de l'UE. Le gouvernement guinéen a rétorqué qu'il s'agit d'un procès d'intention. Liliane.
Merci. Et notre plateau cette semaine est composé de Dr Khadim Bamba Diagne, économiste et directeur scientifique du laboratoire d'analyse de recherche économique et monétaire, l'AREM à Dakar. Dr Diagne, bonsoir.
Bonsoir.
Ou plutôt, bonjour, Dr Diagne. Merci beaucoup d'être notre invité cette semaine. Vous serez accompagné de deux journalistes, Ousseynou Narguéi, journaliste et fondateur du site d'information Tract.sn à Dakar. Ousseynou, bonjour.
Liliane, bonjour. Bonjour à tout votre plateau et merci de l'invitation renouvelée.
Merci d'avoir dit oui à cette invitation. Et en ligne de Conakry, en Guinée, Thierno Hamidou Ba, journaliste et administrateur général du groupe Océan Média et du site d'information océanguinée.com. Bonjour Thierno.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous. Merci Saint-Ish. À vous pour le premier sujet.
C'était le premier grand événement à Paris depuis le début de la pandémie Covid-19. Une trentaine de chefs d'État, de gouvernement et d'institutions financières internationales ont donc répondu à l'invitation d'Emmanuel Macron. Il y a eu des discussions, il y a eu des rencontres bilatérales et multilatérales et à l'issue des promesses, notamment celles de plus d'appui financier pour les pays africains qui globalement n'ont pas été aussi durement impactés par le Covid-19 que les autres continents au vu du nombre des morts, mais économiquement, le continent africain connaît une récession, la première depuis 25 ans selon les statistiques. Seulement, le sommet de Paris n'est pas le premier du genre à s'être penché sur les économies africaines qui sont à la traîne. Le scepticisme est donc généralisé sur le continent et beaucoup estiment que le sommet de Paris était, je cite, un non-événement. Docteur Khadim, votre sentiment d'abord en tant qu'expert?
En fait, je suis parfaitement d'accord avec ceux qui disent que c'est un non-événement parce que vous voyez que vous dites que l'Afrique traverse une récession de 5 points, mais la France subit une récession d'entre 14 et 11 points. C'est-à-dire que l'économie française est trois fois, supporte difficilement même en fait, cette COVID-là et jusqu'à présent, les pays africains reprennent leur activité, mais la France, jusqu'à présent, a du mal à reprendre son activité. Cela veut dire que la crise risque encore d'avoir des effets négatifs sur l'économie française. Comment une France qui souffre trois fois plus que les Africains veut proposer en fait une sortie de crise aux pays africains? Ça, c'est le premier problème. Je pense que ce que la France fait est économiquement correct. La France est en train de dire aux Africains, vous avez des problèmes. C'est une façon pour la France de créer un besoin. au niveau des pays africains. Vous avez un problème, vous avez un problème. À un moment donné, les Africains vont penser que, oui, ils ont des problèmes.
Alors, docteur, il n'y a pas que la France qui dit qu'on a des problèmes en Afrique. Plusieurs gouvernements, dont celui du Sénégal, ont également souligné que la performance économique sera en baisse dans les années à venir. Et le Fonds monétaire international a aussi indiqué que le continent risquait de se heurter à un déficit de financement d'ici 2023. Ce sont des alertes qui ne viennent pas que de la France.
Non, mais c'est que le problème, c'est que ce que je peux vous expliquer, c'est le monde qui est en crise. Mais l'Afrique est la zone la moins touchée. C'est ça mon problème. C'est que la France est trois fois plus touchée que l'Afrique. Tout le monde a un problème. Tout le monde a un problème. Et le problème africain est plus simple à régler. Parce que dans cette crise, l'Afrique a trouvé qu'elle pouvait régler son problème en substituant certains produits qu'on importait d'Europe et d'Asie. Parce qu'à un moment donné, chaque économie se ramassait sur elle-même. Mais si l'Afrique se ramassait, elle voyait que, en fait, elle ne produisait pas grand-chose. Et donc, avec cette crise, l'Afrique a commencé à voir vraiment la réalité économique du continent. Comment faire pour substituer certains produits? Comment faire pour produire, pour être résiliente en temps de crise? Mais la France ne peut pas subir trois fois plus le coût que l'Afrique et convoquer les pays africains pour leur dire que oui, je vais régler vos problèmes. Le problème est là, ça c'est clair. Mais la France veut régler son problème.
Docteur Diagne, pardon, allez oui. Terminer vos propos, s'il vous plaît.
Comment la France veut régler ce problème? Une fois que la France met dans la tête des pays africains que vous avez un problème, vous avez un besoin de financement, mais c'est là où la France va relancer son économie en envoyant ses entreprises reconstruire l'économie africaine. C'est seulement ça. Maintenant, une fois que la France...
Donc, vous voulez dire que ce n'est pas pur calcul que Emmanuel Macron a organisé ce sommet?
Ah, mais oui. C'est-à-dire que la France a créé le besoin et a créé aussi les conditions de satisfaction de ce besoin. Vous avez un problème, personne ne peut régler le problème. Maintenant, je vais vous accompagner à régler le problème. Premièrement, la dette africaine n'est pas... Si la Chine avait convoqué ce sommet-là, ça fera sens. Ça ferait sens parce que la dette africaine est une dette presque chinoise. Mais la dette africaine n'est plus la dette française. Ce n'est plus la France, c'est les Chinois. Maintenant, si la Chine convoquait les pays africains pour dire que oui, je vais trouver un moratoire, je vais vous donner un délai de 5 ans pour vous permettre de reconstruire. Oui, on dira, les pays africains pouvaient dire chiche, oui.
D'accord, sur cette question de moratoire, hein, le sommet a indiqué qu'on en parlera plus tard, mais on a surtout évoqué, docteur Ndiagne, ces fameux DTS qui, d'après la France, devraient permettre de relancer les économies africaines. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la solution la plus indiquée pour y arriver?
Mais non. Le problème DTS, c'est 34 milliards de dollars. Je pense que c'est pas ça qui peut régler le problème des pays africains. Ce qui peut régler le problème des pays africains, c'est l'industrialisation, la transformation. C'est-à-dire que les pays africains doivent commencer à regarder les solutions d'une manière endogène. Parce que ce que la France veut, c'est juste continuer à utiliser le marché africain pour sa reconstruction. Parce que quand vous voyez la stratégie du président français, tu vois nettement que le président français vise deux à trois pays. Parce qu'il dit que l'Afrique de l'Ouest, c'est contrôlé, l'Afrique centrale, c'est contrôlé, mais il y a le Soudan qui doit être reconstruit. Parce qu'avec une instabilité pendant 1 à 2 ans, il faut reconstruire le Soudan. Il faut aussi reconstruire, aider le Congo, Kinshasa. C'est un pays de 90 millions d'habitants, une catastrophe naturelle. Il faut mettre la main sur ce pays-là. Il faut voir aussi comment faire pour commencer une relation forte avec les pays de l'Afrique du Sud, comme Mozambique, ainsi de suite. Donc je pense que les Français ont très bien réfléchi sur la stratégie à venir conquérir des marchés en Afrique. Or, ce que les Africains ont besoin, c'est construire d'une manière endogène leur économie. Et donc, la France a été très intelligente, mais ce n'est pas quelque part une réponse pour aider les pays africains à sortir de la...
Alors... je voulais juste relancer en quelques mots, docteur Ndiagne. Vous dites que oui, la France a eu tort de prendre les devants, mais qu'est-ce que les organisations continentales ont elles-mêmes fait pour trouver des solutions à la relance de cette économie? Il y a certains experts qui estiment aussi que la SADC, la CEMAC ou encore des organisations comme la CEDEAO auraient dû se réunir et appeler les économistes africains pour réfléchir à la meilleure façon, la meilleure stratégie de relancer l'économie. Ça n'a pas été le cas. Donc pourquoi en vouloir à la France aujourd'hui qui décide de faire ce que les Africains eux-mêmes n'ont pas pu réussir à organiser ?
En fait, j'en veux pas à la France. Le président français est très rationnel, très intelligent. Il cherche des marchés pour ses entreprises. Vraiment, j'en veux pas à la France. Moi, en tant qu'économiste, ce que je veux vous montrer, c'est que j'en veux à nos présidents, à toutes les organisations. On a tellement d'organisations, parfois même on s'y perd dans en fait le rôle et la fonction de ces organisations-là. Mais c'est que le problème parfois est un problème de viabilité de nos économies. C'est-à-dire que chaque pays, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas, et je sais que chaque pays est en train de réfléchir pour trouver les mêmes problèmes. Mais c'est que ce que la crise devait nous enseigner. Autant, on disait toujours que les problèmes, c'est pour les pays du Sud, les solutions pour les pays du Nord. Pendant la crise, on a vu que non, c'est pas vrai. Et en ce moment, c'est là où nous devons commencer à chercher les solutions d'une manière endogène. L'erreur, c'est de ne pas chercher les solutions d'une manière endogène.
Vous ne le faites pas, d'autres le font pour vous. C'est vrai qu'il y en a les critiques qui disent que les chefs d'État sont venus en villégiature, dépenser de l'argent dans les grands hôtels pour enflouer les caisses de la France. Mais si vous ne faites rien, les autres le font pour vous.
Je suis parfaitement d'accord. C'est pour ça que l'Afrique est victime de ces chefs d'État. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas la solution d'une manière endogène. Comme le disait l'autre, la femme de l'autre est toujours belle. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas les solutions d'une manière endogène.
Alors, docteur, ces solutions africaines que vous souhaitez, des solutions africaines pour résoudre les maux africains, il va falloir quand même d'abord les trouver, ce qui n'est pas encore le cas, ensuite les expérimenter sur le continent, mais peut-être aussi imposer un point de vue de l'Afrique. Et l'Afrique subsaharienne francophone, on le sait sur le plan mondial, en termes de poids, ne pèse pas grand-chose. Elle n'est ni présente dans le G7, le G20. Comment est-ce que cette Afrique qui, économiquement parlant, ne pèse pas grand-chose, pourrait imposer des solutions africaines sur le plan mondial ?
Vous savez que la chose la plus simple, c'est déjà consommer ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. C'est la chose la plus simple qu'on peut faire. Et en fait, je viens il y a deux semaines à Amsterdam, j'ai vu des mangues qu'on vendait dans des grandes surfaces à 2 euros, des tranches de mangue. Et qu'est-ce qu'on a mis ? Made in France, et ces mangues-là viennent ou du Sénégal ou du Burkina ou bien de la Guinée. Ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune transformation. Aucune transformation. C'est-à-dire qu'il faut que les Africains commencent à comprendre qu'on doit arrêter de vendre nos produits primaires et penser qu'on peut créer des emplois. Si nous vendons tous les produits primaires, mais nos enfants vont prendre les bateaux pour aller à l'Occident, transformer ces produits primaires-là. Ce que la France veut, sa stratégie, c'est continuer à acheter de la matière première et transformer ces matières premières-là, là-bas. On peut transformer nos matières premières ici en Afrique. Tout le combat, c'est à ce niveau. Il faut que les hommes politiques comprennent que ce n'est pas une question de puissance, les pays asiatiques, mais comment ils ont construit leur développement. Mais pas en se disant que oui, nous sommes faibles, nous ne faisons pas partie des grands de ce monde. Non. Ils ont compris leur marché. Ils ont mis en place des stratégies comme le Kairatsu, le Zaibatsu, les Childbirds pour se ramasser sur eux-mêmes et construire quelque chose, vendre, apporter quelque chose sur le marché. Mais c'est que tant que nous continuons à penser que c'est là-bas où on règle les problèmes, on doit aller vendre nos produits primaires, on va acheter leurs produits finis, on ne va jamais créer de l'emploi.
Merci.
Dans le continent.
On peut écouter notre confrère de la Guinée sur cette conférence organisée à Paris sur le financement de la relance de l'économie. Tierno.
Oui, encore une fois, bonjour et merci à docteur qui nous a fait un exposé vraiment très instructif, ça il faut le reconnaître. Bon, rapidement parlant par rapport à ce sommet, moi je me suis intéressé de savoir en fait à quand est-ce que nous allons comprendre nos chefs d'État. Parce que comme il a dit, il faut reconnaître que le président Macron est l'un des présidents européens le plus intelligent aujourd'hui parce que tout ce qu'il est en train de faire, c'est de chercher des marchés pour la France. Donc il s'en fiche pas mal à ce que ce soit un intérêt pour un Africain ou un autre pays. Ce n'est pas son problème. Son problème, comment est-ce qu'il faudrait agir pour la survie de la France, parce qu'il a été élu pour la France.
Mais vous pensez que les chefs d'État africains, la vingtaine de chefs d'État qui s'est rendu en France, parmi lesquels Kagame du Rwanda ou Macky Sall du Sénégal, n'ont rien compris à l'enjeu de cette conférence?
C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, aujourd'hui, il est très difficile pour nous, jeunes Africains, ou cadres intellectuels africains, de comprendre encore nos chefs d'État. Comme l'a dit docteur, nous sommes victimes de nos chefs d'État, en fait. Vous imaginez bien que l'Afrique a encore sa CDAO, l'Afrique a son IMOA, l'Afrique a son... Nous avons la CEMAC, nous avons la SEC, toutes les organisations sont là. Mais depuis, il y a de cela maintenant une année et quelques que la COVID est là en Afrique. Mais jusque-là, non seulement la COVID, mais aussi quand je prends le cas de la Guinée, il y a Ebola, il y a la rougeole et tant d'autres virus que vous connaissez ici en Guinée. Mais jusque-là, en fait, qu'est-ce que nos chefs d'État ont fait au sein de nos organisations, au moins, même ce n'est-ce que ça, au sein de ces organisations-là, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire pour réfléchir, au moins, sur une politique de la relance de notre économie? Mais rien.
Merci.
Vous comprenez ça? Donc, c'est ça le problème fondamental. Et imaginez, quand je prends l'exemple entre le Sénégal et la Guinée. Depuis quand même cette frontière-là est fermée, quand je prends là, le Sénégal et la Guinée et la Guinée-Bissau, même
frontière
en Afrique, ouvrir une frontière,
sont toujours fermées.
Merci Thierno. Merci Thierno. Nous allons revenir à vous après dans le débat, mais déjà prendre aussi le premier commentaire de Ousseynou Nargué.
Oui, merci volontiers. Écoutez, je pense que ce sommet sur le financement des économies africaines en temps de Covid tenu à Paris n'est pas si malvenu que ça. Le fait que votre invité, le professeur d'économie, M. Diagne, dise que l'Afrique est moins impactée que la France, ce n'est là que le symptôme de la faible inclusion de l'Afrique dans les échanges mondiaux internationaux. Quand on sait que l'Afrique représente 2% des échanges économiques mondiaux, voilà, c'est carrément ridicule de ce point de vue-là. Et pour qu'elle représente plus, il faudrait qu'elle ait de grands ensembles. Donc c'est sa faute à elle, l'Afrique, comme le Nigeria qui a un marché intérieur de 180 millions de personnes et qui est une économie forte et la première économie d'Afrique, d'ailleurs, de ce point de vue.
Mais Ousseynou, quand vous dites que le sommet de Paris n'était pas...
Une mauvaise initiative.
Vous pouvez expliquer un peu plus?
Oui, ce que je vais expliquer, c'est que la France n'est pas à la conquête de nouveaux marchés, elle est dans la protection de marchés existants qui font d'elle une puissance moyenne économiquement et une puissance...
Mais excusez-moi, Ousseynou, mais lorsqu'on parle, on mise, comme ça a été le cas au sommet de Paris, sur les DTS, ces fameux droits de tirage spéciaux pour relancer l'économie, il s'agit encore, là, selon les experts, des actifs monétaires appartenant davantage aux pays riches qui peuvent en céder, qui peuvent céder une partie seulement à l'Afrique et parce qu'ils en tirent profit.
Oui, Liliane, mais si je terminais mon raisonnement, j'étais en train de dire que la France avait des parts de marché existantes et concrètes en Afrique, y compris d'ailleurs anglophone, et sur la question...
Mais qui est en perte de terrain, quand même, qui perd des parts de marché importants en Afrique.
Oui, pourquoi
pas. Par rapport à la Chine et d'autres puissances.
Par rapport à la Chine, je vous fais remarquer que la Chine était présente à ce sommet de Paris et a signé la déclaration, oui, mais elle a signé en tout cas la déclaration de 12 pages diffusée par la présidence de la République française. Donc elle endosse les résolutions qui sont prises dans cette déclaration-là. Donc voilà, yes. La dette n'est pas que...
Mais dans ce cas, pour vous, quel a été finalement le bénéfice de cette conférence, selon
Alors,
vous?
Alors peut-être, Liliane, peut-être que nous allons prendre la pause avant de revenir.
Oui, laissez le temps Ousseynou de répondre à cette question. À tout de suite.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Ismantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Notre grand témoin cette semaine est Dr Khadim Bamba Diagne, économiste et directeur scientifique du laboratoire d'analyse et de recherche économique et monétaire LAREM à Dakar au Sénégal. Deux journalistes sont avec nous, Tierno Hamidou Ba, journaliste et administrateur général du groupe Océan Média à Conakry en Guinée, et Ousseynou Narguey, journaliste et fondateur du site d'information tract.sn à Dakar. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur nos sites internet africaradio.com et bbcafrique.com et partagez vos avis avec nous sur la page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa Radio. Et je vous laisse donc la parole, Ousseynou, pour répondre brièvement à cette question que je vous posais avant la pause. Quel aura été le bénéfice, d'après vous, concret et de ce sommet, puisqu'il n'y a pas eu d'engagement, il n'y a pas eu de nouvel engagement financier pour contribuer justement à la relance de cette économie africaine, alors que le FMI parle d'un besoin de 300 milliards de dollars?
Non, il y a un minimum d'engagement qui est pris quand même, parce que la déclaration officielle dit que les pays occidentaux et plus généralement du Nord, y compris la Chine, sont disposés à céder 33 milliards des 650 milliards de droits de tirage spéciaux au financement des économies africaines.
Oui, à terme, c'est 100 milliards qui sont visés. Mais
même si le
ça, c'est encore, ça dépendra encore de l'issue des négociations avec les pays concernés, les États-Unis ou encore le Japon, qui sont détenteurs de ces DTS au niveau du FMI.
Oui.
Ça dépend de leur bon vouloir.
Ça dépend, je pense, de leur intérêt bien compris. Et je crois que la crise actuelle du Covid a montré et démontré que le sort de la planète, tous les pays ont partie liée, que si on peut mettre des barrières à la circulation des biens d'un point de vue sanitaire ou à la circulation des personnes, le virus, on n'a pas pu l'arrêter, donc on a un sort lié. Donc je ne pense pas que c'est leur bon vouloir, je pense que c'est leur intérêt bien compris à ce que l'ensemble des pays de la planète se portent bien, que le développement soit endogène et que les populations restent chez elles et développent leur pays.
Merci Ousseynou. Liliane, nous allons peut-être revenir à notre invité et le faire réagir sur les propos de Ousseynou. C'est vrai, je m'excuse. Alors, le président français également a dit vouloir compter sur la solidarité internationale, la solidarité mondiale. Ousseynou parle aujourd'hui d'intérêts communs. Est-ce que selon vous, ce sont des facteurs qui peuvent justement amener d'autres puissances telles que les États-Unis, le Japon ou encore la Chine même à s'aligner sur cette position de la France et à céder une partie de leurs biens, de leurs DTS?
En fait, personne ne sera d'accord avec, je ne suis pas d'accord avec vous, personne ne sera d'accord avec la France. Parce que sous peu, vous allez entendre encore Chine, Afrique, Japon, Afrique, États-Unis, Afrique, Russie, Afrique, ainsi de suite. Cette grande puissance va essayer de voir comment elle va prendre sa part de marché sur le continent pour relancer son économie, ce qui est logique, ce qui est rationnel. Alors, les 33 milliards de DTS, ça appartient déjà aux pays africains. C'est que maintenant, les FMI pensent et Macron, on doit aller jusqu'à 100 milliards. C'est-à-dire que les pays européens qui empruntent sur le marché des eurobonds avec des taux même négatifs peuvent renoncer à leur DTS. Mais bon, personne ne va écouter Macron. Macron est le président de la France, ce n'est pas le président de l'Allemagne ni de l'Angleterre. Donc, ce n'est pas les chefs d'État.
La France ne pèse pas pour pouvoir convaincre ces autres grandes puissances à la suivre, dites-vous.
Mais Macron est juste en train de parler avec des pays africains comme s'ils n'ont rien compris que... Parce que la dette est une dette chinoise. Vous savez qu'en termes de flux, la Chine est le premier partenaire en Afrique. En termes de stock d'investissement, l'Angleterre est le
premier. Mais justement, excusez-moi, Saint-Tige, juste pour dire, vous l'avez dit, docteur, que voilà, cela dépendra. La France ne pèse pas. Mais ma question était juste très brièvement, si la France parvenait quand même, malgré tout, à convaincre les puissances dont vous parlez à céder une partie de leur DTS pour arriver à 100 milliards, est-ce que cela pourrait être une vraie piste de relance de l'économie africaine?
Mais non. Et en plus, la Chine a des... Écoutez bien. La Chine est le premier partenaire commercial africain. En termes de flux, c'est la Chine qui est arrivée premier. Le premier partenaire en termes d'investissement, stock d'investissement, c'est l'Angleterre. Ces pays-là ont plus d'intérêt que la France. Donc pourquoi laisser la France être le pays pivot, négocier, prendre ses intérêts tout en montrant aux pays africains que oui, c'est moi, le grand franc qui vous a aidé à sortir la tête de l'eau. Non, chaque grande puissance va montrer que oui, c'est moi qui ai réglé le problème. En contrepartie, donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça.
Mais alors, on est dans le monde des affaires. Alors, docteur, donc, si on vous comprend bien, c'est que la Chine n'a aucun intérêt à ce que les économies africaines se relancent.
Est-ce que, non, 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 si, 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 si.
Alors, serait-ce que pour le bien de l'économie chinoise, est-ce que la Chine ne serait pas tentée justement d'aider ces économies à se relancer?
Mais avec elle? Mais pourquoi voulez-vous que la Chine aide les Africains en passant par la France, alors que la Chine a plus d'intérêt que la France en Afrique?
Et en termes de positionnement économique, elle est leader.
Tout à fait. Donc, attendez sous peu à un sommet Afrique-Chine.
Mais dans ce cas-là, docteur, quelles sont finalement les vraies pistes plus adaptées et plus crédibles, vraiment, pour relancer véritablement les économies africaines?
La transformation structurelle des économies des pays africains.
Qu'il faut financer, il faut de l'argent, il faut de liquidité.
Mais non, l'argent, moi je suis un banquier, l'argent ne coûte pas rien sur le marché. Les investisseurs directs étrangers cherchent quelque part à maximiser leurs profits, à minimiser leurs peines. Ce qu'on demande aux pays africains, c'est d'investir sur l'environnement des affaires, que l'eau soit disponible, que l'électricité soit disponible, que la fiscalité aussi soit en fait très bas, qu'on puisse quelque part attirer des investisseurs directs étrangers. Aucun pays ne cherche à développer un autre s'il ne trouve pas ses intérêts. La Chine ne peut pas détenir 40% de la dette africaine, 40%, et laisser la France comme le capitaine négocier et pousser la Chine à dire non, ça n'a pas de sens. C'est pour qui connaît le monde des affaires, comment ça fonctionne. La Chine est le premier partenaire africain en termes de commerce et d'endettement. Donc, laissons la Chine aussi faire ses propositions. Et qu'est-ce que la Chine va proposer? Donnez-moi, vendez-moi vos matières premières. Je vais transformer ces matières premières-là et venir vous vendre des produits finis. Et l'Afrique ne peut pas. Je vous donne l'exemple de la CEDEAO. 400 millions d'habitants. 400 millions d'habitants. Mais il n'y a pas une réunion que la CEDEAO organise pour dire comment faire pour que ces 400 millions d'habitants-là consomment des produits venant de la sous-région. Mais nous avons déjà un marché. Ce que tout le monde cherche, nous l'avons déjà. Mais si nous ouvrons notre marché aux autres, pensant que ce que nous devons faire, un exemple simple, le cacao ivoirien. Cacao, ça, il ne gagne même pas 2 milliards de dollars sur le cacao ivoirien. Mais une partie qu'on vend à Choco Suisse, qui fait un chiffre d'affaires de 97 milliards de dollars. Donc on ne peut pas ne pas transformer et sortir les pays de l'eau. Et
merci.
Le danger aussi de l'endettement, c'est quoi? Plus on s'endette, parce que nos hommes politiques maintenant ne créent pas, ne font pas de montage d'ingénierie financière. On emprunte et on construit, on dit regardez ce que j'ai construit. Après, comment vous allez payer l'endettement? C'est ça le grand problème de la.
Dans un contexte où les cotisations fiscales sont très faibles, regrettait le ministre français encore de l'économie, Bruno Le Maire.
À qui la faute? Au Sénégal, par exemple, 60 entreprises payent 55% de la fiscalité. Qu'est-ce que fait donc les inspecteurs des impôts?
Merci.
Pourquoi les battent pas pour élargir l'assiette fiscale? Mais on pense qu'on doit toujours emprunter. On ne cherche jamais les solutions d'une manière endogène.
Merci. Merci. Prochain sujet.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Et avec notre grand témoin, Dr Khadim Bamba Diagne, économiste et directeur scientifique du laboratoire LAREM à Dakar au Sénégal. Thierno Amidouba, journaliste et administrateur général du groupe Océan Média, est en ligne de Conakry avec nous. Et à Dakar, au Sénégal, Ousseynou Nargué, journaliste et analyste politique, fondateur du site d'information Tract.sn. Cap à présent sur le Tchad. Pas de sanctions contre ce pays, mais un accompagnement de la transition militaire. Décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Après plusieurs jours de tergiversation, le gouvernement de transition, par la voix du ministre des Affaires étrangères, salue vivement, je cite, la sage décision du Conseil de paix et de sécurité de l'UIA que le ministre Chérif Mahamat Zen a par ailleurs remercié et félicité pour son analyse, dit-il, objective, lucide et pertinente. Il faut souligner que la partie n'était pas gagnée. Deux visions s'affrontaient sur la suite à donner au rapport de la mission dépêchée à N'Djamena par l'Organisation continentale pour enquêter sur la situation politique après la mort du président Déby Itno et la prise du pouvoir par son fils. fils, le général Mahamat Debi Itno. Certains réclamaient des sanctions contre les nouvelles autorités pour non-respect de la Constitution. Un rappel, c'est le président de l'Assemblée nationale qui aurait dû assurer l'intérim, lequel a refusé. D'autres pays ne voulaient pas en entendre parler. Et leur principal argument, le Tchad a été et est un acteur essentiel dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. La seconde option l'a donc emporté. Quel est votre avis, docteur Diagne, sur plutôt Ousseynou, sur cette option finalement prise par l'Union africaine? Est-ce que pour vous c'est une erreur, un précédent ou une décision idéale?
Non, je dirais que pour les idéalistes, c'est un peu... frustrant pour ceux qui se plaignent de la transmission dynastique du pouvoir en Afrique, des troisièmes mandats aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. C'est un peu décevant, mais je pense que c'est de la réelle politique, et avec l'exemple du verrou libyen qui depuis 11 ans a flanché et nous a donné droit à la guerre civile que nous connaissons et à la porosité à travers la Libye, aussi bien des migrants africains que des djihadistes islamistes, il aurait été malvenu de fragiliser la transition militaire et dynastique, il faut le dire, au Tchad. Donc je pense que aussi Fatih Mahamat, le
président de la commission de l'UE,
de l'Union africaine, ayant été ministre des Affaires étrangères de son pays, le Tchad, il aurait été quand même malvenu qu'il cherche à se donner des habits de démocrate sur le dos de son pays qu'il a promu et proposé à ce poste de président de la commission de l'Union africaine. Donc l'un dans l'autre, je pense que c'est une sage décision, mais dans le même temps, elle devrait permettre d'exiger de la junte militaire qu'elle respecte la durée de 18 mois de transition et qu'elle n'en fasse pas une option renouvelable. Ça, c'est une chose. Et je crois aussi que le gouvernement d'union nationale mis en place avec pour Premier ministre M. Paré, qui a été le second à l'élection présidentielle tchadienne, qui a précédé de quelques jours,
Albert Padaké.
De l'investiture. Voilà, Albert Padaré.
Padaké, Païmi Padaké.
Padaké, je confonds les Togolais et les Tchadiens. Mais bon, donc je pense qu'il y a des gages aussi quand même d'ouverture à la société civile qui sont donnés par l'agence militaire. Donc faisons-lui un peu crédit. Il sera toujours temps, je crois, de revenir en arrière si cette transition civilo-militaire prend le mauvais chemin. Mais effectivement, c'est un précédent quand même inédit qui tranche avec la jurisprudence qui s'était imposée depuis quelques années.
Alors l'Union africaine qui a quand même souligné dans son communiqué qu'elle reste opposée à tout changement de pouvoir anticonstitutionnel dans les pays. Tierno Amidou Ba, est-ce que finalement cette position de l'Union africaine n'est pas en quelque sorte une façon de laisser les Tchadiens régler leurs problèmes à leur façon ? Puisqu'en fin de compte, l'Union africaine n'apporte aucune solution, aucune proposition et s'aligne en quelque sorte sur ce que fait déjà le CMT et les autres autorités tchadiennes en place.
Bon, vous savez, d'abord, cette Union africaine, elle ne pouvait apporter une autre solution que cela. C'est juste ce qu'elle pouvait dire. Parce que là, après que le président Macron est venu au Tchad, dire ce qu'il a dit pour dire qu'ils n'accepteront pas quelqu'un dérange en fait la tranquillité du Tchadien, surtout aussi encore du Tchad. Vous savez, après cela, en Afrique, on a d'abord un problème, c'est ce qu'il faut d'abord regretter. On ne parle pas ce qu'un autre parle, et dès que c'est un exemple, un président français qui parle, on se dit par là que voilà, c'est fini, on n'a plus le droit peut-être de dire le contraire de ce qu'il a dit. C'est d'abord là qu'il faut déplorer. Maintenant, par rapport à ce que vous avez demandé, oui, c'est une autre sorte de dire aux Tchadiens, voilà, réglez vos problèmes. Et je pense que moi, les Tchadiens, ils ont été beaucoup plus pratiques. Je regrette vraiment, ce coup d'État constitutionnel qui a été effectué au Tchad.
Je ne suis pas non plus pour qu'après le père, ce soit le fils qui vient avec la méthode qu'on a connue, mais je pense que ça a été vraiment de la réelle politique, il faut se dire la vérité, parce que des fois, il faut voir les réalités en face.
Alors, la réalité, voilà. Mais aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêcherait que la transition soit menée par un président civil à qui on adjoindrait des militaires pour la question sécuritaire, comme l'ont proposé certaines plateformes politiques et même de la société civile? Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche de revenir à cet ordre constitutionnel peut-être et à mettre un civil à la tête de la transition, comme c'est le cas, par exemple, au Mali?
Non, vous savez, en fait, les réalités tchadiennes et celles maliennes peuvent se ressembler un tout petit peu, mais ça ne peut jamais, en fait, ce sont des réalités qui ne peuvent jamais être les mêmes. Je m'explique un peu. Le contexte dans lequel le président Déby a quitté ce monde, nous le connaissons. En ce temps, on se dit, ben voilà, c'est un président, comme on a dit, il a été tué au front par tel, donc il faut forcément ici des militaires pour riposter. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que si le président de l'Assemblée nationale arrivait à prendre le pouvoir dans le cadre du respect de la Constitution, est-ce que ces militaires étaient d'abord prêts aussi encore vraiment à obéir à un pouvoir civil en cet instant-là? C'est la question qu'il faut poser. Et je pense que c'est une question à laquelle nous ne saurons pas nous répondre pour dire oui, le militaire tchadien était prêt à obéir à n'importe quel président qui venait, civil ou tel, parce que là, les réalités étaient là. Donc, c'est ça la question. Et à la grande surprise, c'est quand, lorsqu'on a vu aussi le président de l'Assemblée nationale lui-même à qui constitutionnellement le pouvoir revenait et venir dire, écoutez, non, je ne suis pas prêt à prendre le pouvoir. Merci. Voilà une question qu'il faut se poser, mais pourquoi? Il a dit, pendant que la Constitution lui remet le pouvoir.
Merci Thierno.
Donc vous voyez, donc voilà un peu l'analyse qu'il faudrait poser par ici.
Merci. Docteur Diagne, de toute façon, Thierno l'a un peu relevé tout à l'heure, que pouvait faire l'Union africaine devant une situation de fait avec les militaires qui se sont emparés du pouvoir, avec la bénédiction de Emmanuel Macron, qu'on a vu à N'Djamena, et aussi une position, comme Thierno l'a également dit, dans laquelle on voit un président de l'Assemblée nationale confirmer ce qu'avaient déjà dit les militaires, qu'il refuse de prendre la succession. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut en vouloir à l'Union africaine d'avoir décidé de ne pas prendre de sanctions avec ces éléments dont je viens de parler?
Le problème aussi est qu'au même moment, le chef de l'Union africaine est un Tchadien. Donc, mais l'Union africaine devait défendre des principes. On sait qu'en Afrique, il y a certains pays où c'est l'armée qui a son président, d'autres c'est le président qui a son armée. Le Tchad fait partie, comme l'Égypte, comme l'Algérie. Il y a tellement de pays en Afrique où c'est l'armée qui a son président. Le président où il est avec l'armée ou bien il saute. Mais l'Union africaine, d'habitude, les Africains appellent ce machin un syndicat de chefs d'État. Ici, quoi qu'on puisse dire, il y a un coup d'État. Parce que c'était... qu'est-ce qu'on a dit au président de l'Assemblée nationale pour qu'il décide de céder le fauteuil? Il n'a même pas cédé, on l'a imposé à céder le fauteuil. Ici, on sait comment ça se passe en Afrique avec quelques...
Mais elle a entendu lui-même dire qu'à son âge, on ne l'intimide pas, répondant à certains qui estimaient qu'il a peut-être renoncé avec un pistolet sous la tempe.
Vous savez, ici, c'est l'Afrique. Les gens connaissent comment ça se passe. Et voilà, il y a ce qu'on dit en haut et ce qui se fait en bas. Parce que ce n'est pas pour rien que la France est venue légitimer le pouvoir militaire. Parce que le grand problème...
Donc est-ce que vous dites que malgré tout cela, malgré ce que j'ai mentionné tout à l'heure, la présence de Macron à N'Djamena, le refus du président de l'Assemblée nationale, l'Union africaine aurait pu faire autrement?
Mais
en imposant des sanctions?
Des principes, mais c'est ça. Vous savez, dans la vie, il faut toujours prendre des principes. Quelles que soient les conséquences, on sait que voici... parce que sinon, on va avoir la peur au ventre. On ne touche pas au Tchad, c'est une affaire militaire parce que c'est le pays qui protège toute la sous-région. Mais c'est pas ça qui va régler le problème. Il faudra que dans les pays, que les peuples choisissent les hommes qui les dirigent. Et je vous dis, dans 2 ans, vous allez voir qu'on va organiser encore une petite élection des machins pour que ce garçon-là encore continue à diriger le pays. C'est ça qui est injuste.
Le conseil militaire a promis de ne pas que ses membres ne seront pas candidats à la présidentielle au bout de 18 mois de transition.
On est en Afrique, les constitutions sont des cahiers de brouillon. On est en Afrique. Deux mois après, le garçon peut démissionner même pour... Vous allez voir, c'est lui qui va continuer comme son père, faire 50 ans, 40 ans. C'est pour cela qu'il faut toujours défendre les principes. Pour moi, une organisation doit défendre des principes, quel que soit le coût, quel que soit le prix. Parce que ce qui s'est passé, même si le président de l'Assemblée nationale dit que voilà, il ne veut pas remplir, il ne veut pas prendre le poste, il y a quelqu'un d'autre qui doit suivre dans l'ordre protocolaire.
Merci.
Alors, une dernière question pour Ousseynou, peut-être, avant de passer au prochain sujet. Ousseynou, alors, l'Union africaine dit que la transition doit respecter les 18 mois annoncés par le CMT, mais comment contraindre donc le CMT à respecter cette date?
Bon, à la suite de M. le professeur d'économie, M. Diagne, qui à la fois fait dans le paradoxe de dire qu'on sait comment ça se passe en Afrique, c'est-à-dire mal, mais en même temps dit qu'il faut qu'on respecte les principes. Je pense que les conseillers ne sont pas les payeurs, mais effectivement, la communauté africaine et la communauté internationale, je crois, a les moyens de contraindre le Tchad à respecter ce délai de transition de 18 mois.
Si je peux me permettre, Ousseynou, juste dire que vous dites que la communauté internationale a les moyens de contraindre le Tchad, mais il y a cette même communauté internationale qui a estimé que le fait d'avoir laissé l'armée prendre le pouvoir n'est pas un chèque en blanc et que l'armée devrait reconnaître le droit de manifester aux populations qui le souhaitent, mais sauf que la manifestation de Wakitama mercredi a été une fois de plus réprimée. Donc, quand on regarde les situations comme ça, où le Conseil ne respectait rien, pourquoi il le ferait pour le délai, les 18 mois de transition?
Je fais remarquer que quand on était dans le contexte d'une supposée démocratie tchadienne avec un président élu, Idriss Déby, pendant la campagne électorale, il a interdit et réprimé les manifestations. Donc, si cela a pu se passer sous un président démocratiquement, et je mets les guillemets, élu et réélu plusieurs fois, bon, je crois que, voilà, qui peut le plus, peut le moins, on ne peut pas demander plus que cela. Je crois que le Tchad est dans une situation d'exception du point de vue de la communauté internationale et de la France qui a son armée au Sahel. Le Sahel est dans une situation d'exception qui demande justement de tolérer certaines situations du point de vue du règlement de la question de la sécurité de la sous-région. Le Tchad est un acteur important pour la stabilisation du Sahel agressé par le djihad islamiste. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est
on peut tout lui passer
dans la balance pour lui tolérer, en tout cas, cette transition de 18 mois, mais exiger en même temps qu'elle se limite en 18 mois, ce qui me semble raisonnable pour tenir des élections. Quant à savoir si Midi, Mahamat Didi, Idriss Déby Idno se présentera en se défroquant de son treillis, ça je ne peux pas le prévoir, je ne peux pas le savoir, mais effectivement il y a des exemples à foison de transmission dynastique du pouvoir, y compris entre président élu démocratiquement et un fils militaire.
Merci donc, beaucoup. Merci Ousseynou. Saint-Tiche, plus que quelques petites minutes pour le dernier sujet.
Et c'est la Guinée. 32 députés du Parlement européen ont adressé une lettre au vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, pour dénoncer, je cite, le fait que les auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009 conservent des positions élevées au sein de l'administration civile et militaire et participent activement à la répression des manifestations pacifiques de l'opposition. Fin de citation. La réaction des autorités guinéennes ne s'est pas fait attendre. Le porte-parole du gouvernement, Thibaut Camara, a dénoncé un procès d'intention. Selon lui, en ne tendant une oreille attentive qu'aux allégations d'opposants au régime, le Parlement européen n'a donc perçu qu'un seul son de cloche et il a émis des doutes sur l'objectivité des 32 eurodéputés. Thierno, une idée déjà sur qui sont ces 25 personnalités et est-ce qu'elles sont poursuivies dans une procédure judiciaire interne ou externe par rapport aux faits relayés par les députés européens?
Oui, en fait, juridiquement suivi sur le plan interne en Guinée, pour l'instant, non. Voilà, il y a quand même certains parmi eux qui ont été cités dans le cadre de ce qui est arrivé en Guinée en 2009, au massacre du 20 septembre, comme tous nous le connaissons là. Mais en ce qui concerne maintenant là, non, pour l'instant, il n'y a pas une justice derrière ces gens-là.
Juste à préciser, voilà, Saint-Tiche et oui. Tierno, qu'il y a une information judiciaire qui avait été ouverte, qui a été close depuis 2017. Oui. Et les juges d'instruction ont décidé le renvoi devant le tribunal de 13 inculpés. Mais depuis, le procès n'a pas commencé, il ne s'est toujours pas ouvert.
Oui, mais vous savez, en fait, cette lettre de ces 32 députés, en fait, là, vise deux catégories de personnes. Il y a parmi les 25 personnes citées, il y a certains qui ont été d'abord cités dans le cadre du massacre des citoyens le 27 septembre en fait, 2009. Et il y a aussi ceux-là qui ont été acteurs de ce qui est arrivé à la Guinée durant les deux mandats du professeur Alpha Condé que nous connaissons, plus maintenant l'arrivée de ce troisième mandat qui est évidemment forcé par le pouvoir en place. Maintenant, ce qu'il faudrait ici savoir, c'est est-ce que ces sanctions, est-ce que d'abord 32 députés qui ont présenté une lettre d'intention demandant à l'Union européenne de sanctionner 25 hauts cadres du pouvoir de Conakry. Est-ce que cette sanction sera effectuée? C'est d'abord la question qu'il faut poser parce que pour l'instant, les sanctions ne sont pas là. Donc, les députés ont présenté une demande citant 25 hauts cadres du régime. Évidemment, ce sont vraiment des membres clés du régime de Condé qui sont cités dans cette lettre. Mais à la question de savoir est-ce que 32 sur 700 députés européens, est-ce que l'Union européenne va sanctionner les cadres guinéens ou pas, ça on ne peut pas pour l'instant le dire.
Donc pour vous, il n'y a pas de raison pour le régime de Conakry de craindre ces sanctions?
Non. Mais bien sûr, il y a des raisons. Il y a bien sûr des raisons. Vous savez, lorsque les sanctions sont effectuées, avant tout d'abord, lorsque les sanctions de l'Union européenne ou n'importe quelle autre puissance sont effectués sur nos responsables africains, il y a d'abord, avant tout, un problème psychologique déstabilisant chez la personne d'abord. On a vu ici, ça remue qu'on a crié quand la lettre a été émise. Ça remue qu'on a crié. Ça a tout de suite amené même le gouvernement à agir à travers le porte-parole, vous l'avez suivi. Et tout de suite là, vous l'avez aussi encore rappelé. Vous comprenez? Et il y a eu plusieurs violations des droits de l'homme et des droits humains en Guinée, il faut se dire la vérité. Il y a eu combien de civils tués, il y a eu tel pays. Et puis nous connaissons aussi les procédures effectuées pour que nous soyons aujourd'hui dans un pouvoir que d'aucuns appellent premier mandat d'une quatrième république. Alors, et que d'autres appellent troisième mandat. Nous connaissons tout ceci.
Merci Tierno. Alors, Ousseinou, merci Tierno. Alors, Ousseinou, est-ce que cette plainte, cette démarche de ces députés européens pourrait être un avertissement? En septembre de cette année, l'Union européenne devrait se pencher sur un nouveau régime de sanctions. Est-ce que cela peut être perçu comme un avertissement
pour en une minute, s'il vous plaît, Ousseinou.
Non, de mon point de vue, c'est un avertissement sans frais parce que les eurodéputés ne sont pas ceux qui ont le pouvoir. Il y a une présidence rotative tous les 6 mois de l'Union européenne. Il y a une commission de l'Union européenne avec une présidente. Je pense que le Parlement européen peut édicter comme ça et préconiser des sanctions, mais elle n'a pas le pouvoir de les faire appliquer. Je pense, oui, je vous remercie.
Docteur Diagne, est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut penser que cette demande de sanctions force peut-être les autorités à ouvrir enfin ce procès sur le massacre du 28 septembre, même si on sait que beaucoup de personnes suspectées occupent encore des fonctions importantes autour du président Condé?
En fait, mais tout à fait. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que ça va pousser au président africain de comprendre une fois que s'il ne juge plus ou bien s'il n'applique pas la justice pour tout le monde, demain aussi, ceux qui font du n'importe quoi et être vraiment toujours protégés par un pouvoir, je ne sais pas quoi, seront un jour sanctionnés ici ou ailleurs. Parce que c'est ce sentiment d'injustice-là. On tue des gens.
Et mais quel effet cette décision peut avoir sur le pouvoir guinéen?
Dans un premier temps, comme on est dans un process, dans un premier temps, non, mais je suis sûr et certain que s'il y a maintenant la société civile qui s'y met pour soutenir cette décision-là, à un moment donné, certains bailleurs, certaines grandes institutions financières vont commencer à demander des comptes au président. Parce qu'en Afrique, parfois, vous voyez que des jeunes meurent comme ça et puis personne ne paye, quoi.
Merci. Saint-Tige, c'est le moment d'écouter les questions de nos auditeurs recueillies sur la page Facebook par Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @debatbbcafrica et sur notre page Facebook facebook.com/debatbbcafrica.
Bonjour Liliane, bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Sommet de Paris sur le financement de l'économie africaine, Alafi Bokassa estime que ce n'est qu'un sommet de trop dont le seul but est de mieux organiser le pillage des ressources de l'Afrique et de l'endetter davantage. Notre internaute de N'Djamena estime que l'Afrique n'a pas besoin d'aide, mais plutôt d'un partenariat gagnant-gagnant. De son côté, Oka Alban Tchala affirme que le New Deal que propose le sommet de Paris est une nouvelle course à l'endettement pour les pays africains. Pour lui, au lieu de courir vers l'endettement, les pays africains devraient miser sur le financement intérieur et investir sur les projets de développement pour la relance de leur économie. Pour Touré Mamadou Yaya, l'Afrique est un continent très riche qui ne devrait pas compter sur des dettes pour son développement. Refus de l'Union africaine de suspendre le Tchad, Onésime Ofanik se demande si cette décision n'est pas une nouvelle preuve des limites de cette organisation. Pour Imran Diallo, l'Union africaine met en jeu sa crédibilité en étant sélectif dans les sanctions. Et ce genre de comportement tend à donner raison à ceux qui estiment que l'UA est tout simplement une association de vieux amis. Sur la Guinée, notre internaute de Conakry estime que les sanctions réclamées par des eurodéputés contre 25 personnalités guinéennes pour leur présumée responsabilité dans les meurtres des manifestants depuis 2010 ainsi que le massacre du 28 septembre 2009 fait trembler le régime en place. Il se demande s'il ne serait pas bien de rapatrier les familles des personnes visées vers la Guinée et engager une procédure judiciaire internationale. Merci à Jean Zounon, directeur d'exploitation à la retraite à Abidjan. Il est toujours au rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. À vous qui nous écoutez à travers le monde, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Afrique-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Afrique. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous, Didier Ladislas Lando. En quelques secondes, un mot de conclusion, Docteur Diagne. On voit que ce sommet ne passe pas. Et pour répondre peut-être à cet auditeur qui pense que c'est un sommet de plus pour piller les ressources de l'Afrique, endetter davantage le continent.
Je suis parfaitement d'accord. Hein. C'est pour cela qu'il est temps que les pays africains réfléchissent d'une manière endogène, montrent leurs problèmes et après cherchent des solutions à leurs propres problèmes. On ne doit pas continuer à laisser les autres nous dire que vous avez des problèmes et nous avons les solutions. Personne n'a les solutions d'un pays. Vous voyez ce qui s'est passé en 1981 avec les ajustements structurels. Les institutions financières internationales ont mis en place un costard pour tous les pays africains. Parfois ça passe, parfois c'est trop grand, parfois c'est trop petit. Donc il est temps, et pourtant pendant la crise des pays européens, chaque pays avec son plan d'ajustement. Parce que l'Afrique ne représente pas grand-chose. C'est pour ça que les gens ne perdent pas du temps pour réfléchir sur ce continent-là. C'est pour cela qu'il appartient aux Africains, à leurs dirigeants, de réfléchir froidement sur leur situation,
merci,
identifier leurs problèmes et chercher des solutions.
Merci beaucoup, Docteur Bamba Diagne. Vous étiez notre invité cette semaine. Vous êtes économiste et directeur scientifique du laboratoire d'analyse et de recherche économique et monétaire LAREM à Dakar au Sénégal. Merci à nos confrères Amidou Ba, journaliste, analyste et politique et administrateur général du groupe Océan Média et du site d'information océanguinée.com à Conakry. Merci à Ousseynou Narguey, journaliste et fondateur du site sénégalais d'information tract.sn à Dakar. Réalisation de cette émission à Dakar, Abdou Diop à Paris, Hugo Vallière, chargé de production, Didier Ladislas Lando. Vous pouvez retrouver cette émission sur bbcafrique.com et africaradio.com et nous faire part de vos commentaires sur la page Facebook. Je vous en donne l'adresse facebook.com/debat BBC Africa Radio. Au revoir Saint-Tiche et à la semaine prochaine. Bon week-end.
Je sais que votre week-end sera bon, donc je vous souhaite une bonne semaine, Liliane.
Merci à vous, Saint-Tiche, et j'espère que le vôtre aussi. À très bientôt.